Chapitre 2. Il y eut un silence. Francis considérait avec un mélange de joie et de curiosité cette jeune fille qui lui parlait si résolument un langage qu'il n'avait pas entendu de son ami le plus intime. Berthe n'était pas jolie et tout le monde s'accordait pour trouver à Lucille de plus beaux yeux, un teint plus frais, une bouche mieux dessinée, un front plus régulier. Cependant, c'était Berthe qu'on regardait avec une attention mieux soutenue. Elle avait un charme particulier qui naissait de sa physionomie. Jamais visage ne fut plus mobile, jamais sourire plus fier ou plus fin, jamais regard plus vif ou plus doux, jamais gaieté plus expansive ou tristesse plus pénétrante. On pouvait ne pas la remarquer, silencieuse. Elle captivait émue. C'était, selon l'expression d'un ami de la famille, la plus jolie laide qui se pût voir. Tandis que Francis la regardait, Berthe continuait de briser entre ses doigts des bouts de branches mortes qu'elle tirait de la mousse. « La voilà convaincue. Bonsoir, Lomélie, » se dit le jeune homme. La pluie cessa de tomber. Ils se levèrent et prirent par le bord du ruisseau, bras dessus, bras dessous. Berthe s'était armée d'une baguette et battait les saules, d'où tombaient 1000 gouttes d'eau. On fit quelques pas sans parler. « Où diable voyage-t-elle en esprit ?» pensa de nouveau Francis. « Vous êtes donc tout seul, tout à fait seul ?» lui demanda Berthe. « Non pas, » dit Francis gaiement. « J'ai 10 cousins qui me détestent et une tante confite en dévotion qui me gronde 6 fois l'an. »« Pauvre garçon !» murmura Berthe. L'accent de cette voix étouffée était si bon, le léger mouvement des épaules qui l'accompagna si amical, le pli des lèvres si sympathique et si vrai, que Francis en fut ému. Ça, dit-il, vous ne pouvez plus me refuser votre main, vous venez de gagner mon amitié d'un seul coup. Donnez-moi la vôtre, reprit Berthe, la mienne ne vous manquera jamais. Leurs deux mains unies, une certaine émotion gagna Francis. Il sentait que Berthe avait raison, il éprouvait un embarras réel à le confesser. Il fit un effort pour en sortir en donnant à l'entretien un tour plus gai. « À présent que me voilà rassuré, reprit-il, expliquez-moi pourquoi vous m'évitiez toujours, car cela me frappe maintenant, et pourquoi surtout vous n'avez que rêlé aussitôt que vous avez daigné causer avec moi. Et précisément parce que mon amitié vous était acquise dès les premiers jours, le vieux notaire du pays disait tant de mal de vous. » Et j'enrageais de voir que vous en méritiez bien la moitié. Berthe n'était timide que devant un piano. En face d'un jeune homme au menton duquel elle touchait par le front, elle avait toute son assurance. Elle parla de la sotte vie que menait M. d'Auberive, avec une véhémence pleine de feu, mêlant la réprimande au conseil et la raillerie à la prière. Où cela le conduirait-il de marcher toujours dans la même voie? La ruine était bien quelque chose. D'ailleurs, le ridicule était au bout et c'était pis. N'avait-il pas honte de manger en partie de plaisirs ennuyeuses le bien amassé par ses pères et de traîner dans 1000 sottises un nom qui avait eu de l'éclat? Il ne l'avait pas encore compromis, grâce à Dieu et un reste de bon sens, mais qui osait répondre de l'avenir? Si les temps n'étaient plus où il pouvait porter la robe fourrée d'hermine du conseiller ou la cotte de maille de l'homme d'armes, il y avait encore 10 carrières où son intelligence trouverait librement à se mouvoir. Le fusil d'un soldat valait mieux que la cravache d'un dandy. La première loi du siècle était le travail. Il manquait, c'était déserter. Que les femmes fussent condamnées, dans une certaine mesure à rester oisives, c'était un malheur, mais un homme. Que parlait-il d'habitude? La volonté vient à bout de doigts, de tout, l'effort est presque déjà la guérison. N'était-il pas là, à 30 ans, d'user ses bottes, sur l'asphalte du boulevard et de compter les arbres du bois de Boulogne dans 1000 courses 1000 fois renouvelées. Elle estimait qu'un homme qui pouvait trouver son contentement dans une existence si plate n'était ni digne d'une affection sérieuse, ni capable d'en ressentir aucune. « Bon, frappez toujours, mon petit philosophe, » dit Francis. « Mais pouvez-vous que j'ai tort et ma philosophie se taira ?» répliqua Berthe. Monsieur d'Auberive changea tout à coup de visage et de ton. « Merci, » reprit-il en serrant fortement la main de Berthe. « Vous êtes la première personne qui, par sa colère et sa généreuse indignation, m'ait donné la pensée que je valais quelque chose. » Une petite paysanne vint à passer et leur présenta un bouquet de violettes. Monsieur d'Auberive l'offrit à Berthe. « Acceptez-le, » dit-il d'une voix grave. « Ce sera entre nous le gage de la réconciliation. » « Et de la réforme, » ajouta Berthe. Francis soupira. « Oh, j'essaierai, » reprit-il. Ils firent encore une centaine de pas et aperçurent les toits de la Marelle au détour du sentier. « À demain, » dit Berthe, qui sentait son cœur battre sans savoir pourquoi et qui aurait été désespérée si quelqu'un l'avait surprise en ce moment. Elle s'éloigna en courant. Mais à l'instant où elle allait disparaître derrière un massif d'arbres, « N'oubliez rien !» cria-t-elle à M. d'Aubrive en se retournant. 20 pas plus loin, elle porta vivement le bouquet de violettes à ses lèvres, sans penser à ce qu'elle faisait. Francis resta quelque temps sous l'impression de cette rencontre et de l'entretien qu'il avait suivi. Cette petite fille, qui avait le langage énergique d'un moraliste et toute l'onction d'une femme, lui paraissait la plus étonnante personne qu'il eût encore trouvée sur son chemin. Mais telle qu'elle était avec son audace, la pâleur mate de son teint, la franchise de ses allures, ses lèvres pleines, son accent impétueux et ses sourcils mobiles, il ne lui semblait pas qu'on en pût rencontrer de plus séduisante. M. d'Auberive pensait que s'il avait eu une sœur de cette trempe solide, il aurait pu faire quelque chose comme tant d'autres qui n'étaient pas des aigles. Et de l'idée d'une sœur à une autre idée plus intime, il n'y a pas grande distance. Le rêveur l'avait déjà franchi lorsqu'il se mit à sourire. « La bonne folie, » dit-il. « Mademoiselle Berthe des Tournelles, qui aura peut-être 1 million, la femme de M. Francis d'Aubrive, qui, oh, parbleu qu'il a rien !» Il soupira, jeta de côté un regard sur la hutte dans laquelle ils avaient passé un quart d'heure l'un près de l'autre. Il se demanda, en ralentissant le pas, si la vie lui paraîtrait bien longue en compagnie d'une personne si originale et si résolue. Et l'émotion le gagnait malgré lui, mais il se défendait d'y céder et cherchait à repousser l'image qui le poursuivait. Certains lambeaux de phrases qu'il murmurait à demi-voix répondaient à des séries de pensées qui lui traversaient l'esprit subitement, comme ces demoiselles qui passent en l'air au-dessus d'un lac et y réfléchissent leurs ailes. « Mais suis-je bête ? » reprit-il au bout d'un instant. « Pour quelques paroles échappées aux caprices d'une conversation, pour un intérêt d'une heure, où la curiosité a peut-être autant de départ que le cœur, alors donc ?» Il haussa les épaules et alluma un cigare. M. d'Aubrive n'était pas de ces hommes que des succès faciles ont rendu fat. Il avait au contraire une si grande dose de modestie que rien ne pouvait le déterminer à croire qu'il pût prétendre à quelque chose qui ressemblât à de l'amour, à de l'amitié ou à de la sympathie. S'il était bien accueilli, s'il plaisait dans le monde, si même on lui donnait des raisons de penser qu'il était aimé, il ne manquait pas d'attribuer ses résultats à certains hasards auxquels son mérite restait étranger. Ces sophismes à l'aide desquels beaucoup de ses semblables se haussent dévotement au-dessus du commun des mortels, il les employait aussi, mais en sens inverse et de bonne foi. L'examen de conscience achevé, Il avait cette conviction que nul moins que lui n'était fait pour mériter qu'on s'intéressât à son avenir. Si d'aventure une âme charitable lui démontrait victorieusement le contraire, son étonnement avait quelque chose de comique. Il s'agitait à trouver des motifs particuliers à cette affection, dont il ne voulait en aucun cas faire des honneurs à sa personne, finissait par en découvrir d'invraisemblables qui lui suffisaient, et bientôt après rentrait dans son opinion première avec empressement. L'occasion avait tout fait et cette occasion ne se présenterait plus. Quand M. Daubry vit bien tourner et retourner dans son esprit le souvenir de cette matinée heureuse qu'il avait passée avec Berthe, le brave garçon ne manqua pas d'arriver aux désastreuses conclusions qui lui étaient familières. Il s'y soumit cette fois avec plus de chagrin encore que de résignation, et se promit en soupirant de ne plus penser à sa compagne d'un jour pour ne pas laisser à son cœur le temps de s'y habituer. En s'arrêtant à cette résolution héroïque qui lui coûta plus d'un regret, M. d'Auberive n'en était pas moins fermement décidé à tenir la promesse qu'il avait faite à son mentor de 20 ans. Le sommeil ne le visita pas beaucoup cette nuit-là. Le lendemain, au petit jour, il partit pour la chasse. Les perdreaux ne l'occupaient guère, mais une inquiétude dont il n'était pas le maître le poussait à marcher. Le grand air, la fraîcheur et le calme d'une belle matinée agirent sur ses nerfs et les détendirent. Il côtoya le ruisseau le long duquel Berthe et lui avaient marché la veille. De petites violettes se voyaient dans l'herbe. Certaines inflexions de voix, certains regards, certains mots accentués d'une façon particulière lui revinrent à l'esprit et lui firent trouver un peu brutal l'arrêt par lequel il s'était condamné la veille. On ne pense pas les pieds dans la rosée, les regards noyés dans la clarté limpide du matin, comme on pense dans un cabinet, les yeux arrêtés contre un vilain mur assombri par le soir. « Qui sait ?» murmura Francis joyeusement. Un lièvre parti d'un buisson, Francis fit feu et le manqua. « Bah !» dit-il, en suivant du regard l'animal qui filait dans la plaine. « Bah ! Berthe sauve la vie !» Comme il rechargeait paresseusement son fusil, le vieux notaire dont Mademoiselle Détournay lui avait parlé arriva trottant sur un bidet que l'on connaissait à Dilleuse à la ronde. M. d'Auberive mit la main sur la bride de l'animal. Eh, dit-il d'un air de belle humeur, vous voilà donc, monsieur le tabellion, qui dites si gaillardement du mal des gens. Le vieux notaire avait la langue acérée et il n'était pas homme à reculer. « Et de quoi, bon Dieu, vous plaignez-vous, monsieur le chasseur ?» répliqua-t-il. « On ne dit guère que le quart de ce qu'on pense. » Monsieur d'Aubrib salua, mais d'un ton plus net. « Vous parlez comme Saint-Jean bouche d'or, mon bon monsieur le cerf, » reprit-il. « Mais peut-être pourrait-on un jour vous prier de garder pour vous cette belle opinion ?» « Ben là, nous fâchons pas, » répondit monsieur le cerf, qui lâcha la brise à son bidet pour lui permettre de brouter en paix. « On est encore assez vert pour vous prêter le collet, quoique notaire. Mais, s'il vous plaît, un instant de raisonner, raisonnons, après quoi on verra s'expliquer. » Il se pencha sur le pommeau de sa selle et bien commodément assis. « Vous conviendrez facilement, continua-t-il, qu'un serrurier a bien le droit de parler de serrure et un laboureur de charrue. Permettez donc à un notaire de parler mariage et contrat. Voilà mon royaume, et les plus beaux chasseurs du monde ne m'en feront pas des guerres pires. Les parties sont rares dans le canton, où je ne sais pas pourquoi il y a 10 aînes de jeunes gens. Il faut donc, bon gré mal gré, qu'on s'occupe de vous, et vous rentrez dans mes domaines par droit d'acquis et de conquête. Que vous soyez un aimable garçon, facile à vivre, prompt à obliger les gens, et tout à fait galant homme qui en doute. Je chanterai vos louanges sur le mode majeur, si cela vous plaît, mais sur le chapitre de l'établissement spécial qui est de mon ressort, halte là. de bonne foi, tâchez de voir au fond de votre vie, comme vous voyez au fond de ce ruisseau. Nous avons tant sonné, ce me semble. Nous avons mangé notre bien en herbe, croquant le fond avec le revenu. Nous avons eu force chiens, force chevaux, force compagnons de plaisir, qui buvaient sec, force abouettes, qui duraient ce que durent les lunes. Et nous avons tenu à honneur de ne négliger aucune des fredaines qui pouvaient augmenter notre réputation de mauvais sujet. Vous paraît-il que ce soit un joli capital à offrir à un père de famille? Oh, si vous étiez de la tête de deux ou trois beaux brins de filles en étage d'être pourvues, et que l'on vint vous présenter pour gendre un gars bâti sur votre modèle, vous trinqueriez volontiers avec le camarade, et la chose faite, vous lui diriez « Bon, bel ami, passez votre chemin, allez vous marier ailleurs. » Est-ce vrai? Supposons à présent qu'un propriétaire vienne me consulter dans mon cabinet. Un sanctuaire, monsieur le gentilhomme. Que voulez-vous en conscience que je réponde? Trouveriez-vous honnête que je mise votre nom en tête d'une liste de jeunes gens propres à signer un bon contrat? Vous n'oseriez pas me le conseiller? Oh, s'il s'agissait de vénerie ou de sport, comme vous dites, nul ne serait recommandé avant vous. Mais ces choses-là où vous brillez ne sont pas de mon ressort. Tenez, je prends au hasard. On penserait à vous donner pour femme mademoiselle Le Camus, qui a la ferme d'Angeret, 200 hectares d'un seul tenant, ou mademoiselle Dussommier, qui a 10 000 livres de rente du chef de son père en bien fond, ou mademoiselle Lespieux, qui a les plus belles vignes de l'arrondissement, ou même encore mademoiselle Lucille, Détournelle, votre voisine, qui passe à bon droit, ou j'en sais quelque chose, pour une riche héritière. Mon devoir, puisqu'il s'agit de mes ouailles, n'est-il pas de me cabrer? Et c'est ce que je fais. La langue me part et je débronde par A plus B que vous seriez un mari détestable. Le passé répond de l'avenir. Manger une dot qui aurait été comptée dans mon étude, ah, que nenni! Je ne tiendrai pour déshonoré. Voilà comment j'entends mon métier, voilà près de 40 ans que j'exerce ainsi. Le notariat, mais c'est ma religion à moi. Si donc l'occasion est d'or, je vous ai drapé, prenez-vous-en à mon amour du métier. Et maintenant, vous plaît-il de partager mon menu? Vous êtes mon homme, madame le cerf tirera la meilleure bouteille du meilleur coin, et je vous tiendrai tête. » Ce petit discours, débité avec verve et tout d'une haleine, produisit une impression singulière sur l'esprit de M. d'Aubrive. C'était un homme, on le sait, qui trouvait toujours qu'on était dans le vrai quand on lui donnait tort. « Touchez-la, dit-il au notaire, vous avez fait votre devoir. » Monsieur le cerf n'était pas méchant, au fond, quoique vert comme du vin nouveau. Cet abandon le toucha. « Ça, voyons, reprit-il en retenant la main que Francis lui avait tendue. On parle de conversion, et ça peut mener au mariage, aussi bien qu'au paradis. Tout net et en quatre mots, que vous reste-t-il? Nous avons des actions, des valeurs, un peu d'argent mignon. On peut grouper tout cela. Ne parlez pas des terres de Grandval, je les connais. De ce côté-là, nous n'aurions pas 10 000 écus vaillants, mais après. » Francis sourit. « Il me reste ma tante, dit-il. » Le notaire fit la moue. « Hum, reprit-il. Le bruit court qu'un bon vieux curé la visite souvent. C'est un héritage sur lequel je ne prêterai rien. » Il ramena la bride de son bidet qui secoua la tête d'un air chagrin. Puis le frappa du talon. « Eh, sans cul au moins, dit-il à M. d'Auberville. « Bon avis et que vous mourrez, garçon !» Il poussa le cheval, qui prit le trot et disparut derrière une haie. Resté seul, M. Francis d'Aubrive siffla son chien, qui dormait dans l'herbe, et rentra en chasse. Il avait le cœur gros, et pourtant il n'avait garde d'en vouloir au notaire. Ce que M. le cerf lui avait dit lui semblait marqué au coin du bon sens. Tous les rêves qu'il avait faits depuis une heure s'en allaient comme la rosée, séchée déjà par un rayon de soleil plus chaud. « Est-on fou quelquefois, se dit-il. Si j'avais pas rencontré ce brave notaire, voyez donc où m'auraient conduit toutes ces extravagantes idées. Bon, il a dit vrai, tel j'ai vécu, tel je mourrai. Il est singulier seulement que je le regrette au moment où il m'est défendu d'espérer mieux. Aussi, pourquoi suis-je allé à la Marelle? Une compagnie de perdreaux s'éleva d'un champ de trèfle. Il fit feu de ses deux coups et les deux perdreaux tombèrent sous la gueule du chien. « Ah » murmura-t-il, « Mademoiselle Berthe n'est plus là pour vous protéger. » Quand il rentra dans son petit castel de Grandval, il se sentit fort triste et fort désœuvré. Il s'assit à table et mangea peu. Quelques fagots de sarment flambaient dans la cheminée. Il pensa que la solitude lui semblerait douce si ce coin du feu était égayé par le sourire et la causerie d'une femme qui aurait la physionomie de Berthe. Il regarda les murs, les fusils et les carnassières pendus au râtelier, la pendule dont les aiguilles marchaient si lentement, le chien couché devant l'âtre et qui gémissait en rêvant, sa petite bibliothèque dont il connaissait tous les livres, un certain vieux bureau à pieds tordus dont tous les tiroirs étaient pleins de lettres qui marquaient les étapes de sa jeunesse, pria de lui parler plus à l'esprit. Sa longue pipe turque, rapportée d'un voyage qu'il avait fait en Égypte, restait éteinte sous sa main. Il buvait un petit coup le café refroidi dans la tasse. Une impression de malaise toute nouvelle le saisissait et il ne bougeait pas de son fauteuil. Sa pensée était à la Marelle. « Alors, se disait-il à toute minute, il n'y faut plus songer !» Et il se coucha en y pensant toujours. Le lendemain, il n'osa point se présenter chez M. des Tournelles, ni le jour suivant non plus. Il rôda tout autour de la Marelle, poussé vers la maison et retenu par la crainte de rendre au plus amer un regret dont il ne pouvait pas se défendre. « Est-ce absurde à 30 ans ?» se disait-il avec dépit, car il ne s'épargnait guère. Et volontiers, il se serait battu. Mais les 30 ans n'y faisaient rien, et il éprouvait les mêmes agitations qu'un écolier. Quand il avait fait 2 ou 3 fois le tour du parc, il en sortait. « Bon, ça passera, » répétait-il comme pour se rassurer. Que de choses qui avaient passé déjà, et qu'il voyait défiler au fond de son souvenir comme une procession blanche de fantômes. Et pourquoi donc le souvenir de Mademoiselle Berthe, qui n'était pas jolie, serait-il plus vivace? Il rentrait dans le salon de Grandval, où il retrouvait à leur même place les fusils, la pendule, le chien, le bureau et la pipe turque. Il s'asseyait au coin du feu, maudissant sa jeunesse et s'efforçant de trouver quelque plaisir à la lecture des lettres apportées chaque matin sur son guéridon. Mais elle lui rappelait un temps qu'il n'aimait plus. Alors, le 3e jour, il prit son parti résolument et se rendit à la Marelle. Berthe travaillait auprès d'une fenêtre qu'elle ne quittait plus guère depuis quelque temps et qui était merveilleusement placée pour voir les personnes qui entraient au château. Lucille jouait du piano. Elle se leva vivement et courut au-devant de Francis. « Comme vous vous faites rare, » dit-elle. Berthe ne remua point, sa tête resta penchée sur la broderie qu'elle avait à la main. Cependant, il parut à Francis qu'elle avait pâli, qu'un léger tremblement agitait la mousseline sous l'aiguille. Il en eut un instant de joie, mais presque aussitôt une réflexion vint tout gâter. Ben, « c'est un effet de lumière, » pensa-t-il. Le jour tomba faux sur son visage, en outre il éclaire mal sa broderie. Elle vient peut-être de se piquer. » Gêné, il la salua froidement, sans lui tendre la main. Elle leva les yeux d'un air étonné et resta contrainte pendant toute cette visite. M. d'Aubrive, qui cherchait ses mots, n'osa pas la prolonger. Quand il se leva, elle s'inclina sans le regarder. Lucile raccompagna jusqu'à la grille du parc. Il lui répondait tout de travers. Lorsqu'il fut seul dans la campagne, Francis allongea le pas comme s'il avait hâte de mettre une grande distance entre Berthe et lui. « Mais je ne m'étais pas trompé, pensa-t-il, comme elle m'a reçu, mais quelle froideur! Un étranger qui l'eût vu pour la seconde fois eût obtenu un accueil plus cordial. À peine un mot, un regard tout au plus. Rien qui me prouvait qu'elle se souvienne encore de notre entretien. Avais-je raison de penser qu'un concours particulier de circonstances avait tout fait? Eh bien, ma foi, tant mieux, cela m'aidera à me guérir plus vite. » Tout en disant « tant mieux », Francis cassait à grands coups de canne les branches des buissons devant lesquels il passait. Rien ne fait plus de ravages qu'une préoccupation constante, et cet acharnement que mettent certains esprits à se bien persuader que les choses qu'ils redoutent le plus sont et seront. M. d'Audrive s'y appliquait avec un soin qu'il devait à la longue enraciner sa conviction. Et quand, par hasard, il se laissait aller à cette vague espérance que Mademoiselle Détournelle, si active dans sa bienveillance, si nette, si prompte, si franche et si résolue, pouvait être sa providence, le souvenir de la conversation qu'il avait eue avec M. Le Cerf lui revenait à l'esprit, et il n'en fallait pas tant pour le rejeter dans cet amer travail intérieur qui avait été l'œuvre de toute sa vie. Un sentiment de fierté noble qui avait sa source dans les meilleurs instincts venait en aide à ce parti pris de n'ajouter point de loi aux apparences et de ne pas s'abandonner à la pente vers laquelle il sentait bien que son cœur un peu battu par son orage le poussait. Berthe était une riche héritière, une des plus riches du département. S'il affichait hautement des prétentions à sa main, lui qui n'était qu'un pauvre hobereau de clocher, vivant à la diable sur les débris de son patrimoine, n'aurait-il pas toutes les allures malsonnantes d'un coureur de dettes? Et n'était-il pas indubitable que personne ne croirait à la sincérité de son entraînement? Le succès impossible, c'était tout au moins une honte qu'il fallait éviter à son nom. Il redoubla donc de réserve dans ses rapports avec la Marelle. Berthe était trop jeune et, malgré son éducation, comparativement libre, surtout depuis la mort de sa mère, trop inexpérimentée pour démêler les véritables motifs de cette conduite. Elle en souffrait, sans y rien comprendre. Toujours un peu sauvage, au fond, elle craignait aussi d'avoir donné par sa franchise une mauvaise opinion d'elle à M. d'Aubrive. Cette pensée lui faisait monter le rouge au visage quand elle était seule. On comprend que cette mutuelle raideur céda parfois sous l'influence de l'occasion. L'intimité qui naît du séjour à la campagne, les promenades qu'on y fait à pied et à cheval, les joyeux dîners qui suivent les retours de chasse, sont autant de pièges où la jeunesse se prend. On oublie le rôle qu'on s'est imposé. Le cœur s'échauffe avec l'esprit, on mesure moins son langage, on badine. Et une heure détruit l'œuvre des plus sévères révolutions. Ainsi faisaient Berthe et Francis. Mais la nuit venue et solitairement cloîtrée entre les murs de Grandval, comme ils se redoyaient, comme ils refoulaient par un feu roulant d'invectives et de sarcasmes le mouvement de jeunesse égayé par une lueur d'espoir auquel ils s'étaient abandonnés. Tel un bouvier marche à pas lourds sur les petites fleurs que la rosée a fait épanouir. Le lendemain, M. d'Aubrive restait enfermé dans sa maison et jurait de ne plus s'exposer à des périls qu'il le trouvait si lâches. Berthe l'attendait et, surprise de ne pas le voir, se promenait silencieusement au coucher du soleil dans les parties les plus désertes du parc. Un soir, M. Détournelle, qui revenait d'une coupe de bois, l'y surprit assis sur un banc de mousse, un livre fermé sur les genoux. Elle n'avait point entendu le pas de son cheval. Il s'arrêta devant elle et la touchant du bout de sa cravache. Hé, mignonne, dit-il, à quoi rêve l'eau qui dort? Berthe leva sur son père ses yeux profonds et, sans manifester aucune surprise, à Monsieur Francis d'Aubrive, répondit-elle. Oh, diable! Fit Monsieur des Tournelles. Puis sautant à bas de son cheval, qu'il retint par la bride, il prit le bras de sa fille qui le suivit. Ça, continua-t-il en marchant, est-ce que par hasard? Non, pas, non, non, pas, c'est pas un rêve, c'est une idée. Monsieur des Tournelles fronça le sourcil. J'ai reçu Monsieur d'Aubrive chez moi en ami, dit-il. Aurait-il oublié en te parlant? Berthe l'arrêta d'un geste. Oh, il n'a rien oublié de ce qu'il vous doit et de ce qu'il me doit, reprit-elle fièrement. Je crois même, autant que j'en puis juger, que la pensée qui m'occupe m'occupe seule. Mais à quel propos cette pensée, pourquoi et comment? Ben, je le sais. J'ai vu Monsieur d'Aubrive assez souvent. Il a quelque chose de triste dans les yeux. Il est bon comme un enfant, et on ferait couler tout le sang de ses veines avant d'y trouver une goutte de fiel. Je ne peux pas me défendre de m'intéresser à lui. Il est si seul. On le voit rire, et il rit beaucoup, mais au fond, il n'est point heureux. Un temps, j'ai cru qu'il m'aimait sans le savoir. C'était après une conversation que nous avons eue il y a 2 mois. À présent, je ne sais plus que penser. Cependant, lorsqu'il s'imagine que je ne l'aperçois pas, il me suit des yeux. Et dans ces moments-là, le cœur me bat m'étouffer. Il me semble que tout ce qui se passe en moi se peint sur mon visage. Et quand nous sommes restés l'un près de l'autre, tout un soir, sans nous parler, j'ai la respiration oppressée. Et si au moment de partir, il arrête les yeux sur moi, je dis 1000 choses qui font que la nuit mes joues se couvrent de larmes. Bien, vous avez voulu savoir mon secret? Le voilà. Monsieur des Tournelles écoutait Berthe attentivement. Il ne t'a jamais ouvert son cœur, jamais écrit? Oh, s'il m'avait écrit, je vous aurais apporté sa lettre. Bien vrai, reprit le maître de forge. Oh, mon père, regardez-moi, dit Berthe. Monsieur des Tournelles l'embrassa. Tu as raison, mais ne m'en veuille pas. Ton bonheur est en jeu, et il me touche plus que le mien. J'ai donc besoin de tout savoir. Monsieur d'Aubrive, paraît-il se douter de ce trouble que tu ressens? Je ne sais. Depuis quelque temps même, on dirait qu'il évite les occasions de se trouver avec moi. Sa manière d'agir est celle d'un galant homme. Je ne te cacherai pas cependant que Monsieur d'Aubrive n'est pas le mari que j'avais choisi. J'avais d'autres idées, mais puisque tu y penses, on verra. Berthe jeta les bras autour du cou de son père et à plusieurs reprises l'embrassa. Vous êtes bon, dit-elle. Hé, reprit Monsieur des Tournelles, c'est donc sérieux. Sérieux? Fit-elle en le regardant. Vous me connaissez et vous me le demandez? Sa confession faite, Berthe fut soulagée d'un grand poids. Il lui sembla qu'elle pouvait penser à Monsieur d'Aubrive en toute liberté et sans remords de conscience. Son père lui avait fait promettre de ne rien changer à leur relation, surtout de ne point laisser entendre à leurs voisins qu'il avait été question de lui entre elle et Monsieur des Tournelles. Il aimait assez sa fille, disait-il, pour ne point faire cas de la fortune, pour renoncer à d'autres projets, si nul obstacle grave ne s'opposait à ce qu'on élevât Francis à la dignité de mari. Il demandait seulement un peu de temps et le droit de réfléchir. Berthe n'en voulait pas davantage. Rassurée par ce langage et persuadée que son père ne découvrirait pas autre chose que ce qu'elle savait, elle se voyait déjà, en esprit, châtelaine de Grandval, partagée entre son père et son mari. Et elle s'étonnait seulement que Francis ne fût pas plus prompt à deviner que quelque chose d'important se passait. Et elle le trouvait même maladroit dans sa tranquillité. et se promettait de l'en faire repartir quand son père aurait dit oui. En attendant que M. d'Aubry ouvrit les yeux, Berthe interrogeait souvent son père sur la nature des renseignements qu'il avait pris. Le père ne s'expliquait pas nettement, mais un mouvement de la tête, un mot jeté en passant, faisait entendre que rien n'était compromis. Il paraissait même s'habituer à cette idée. « Hum !» disait-il un jour en glissant son bras sous celui de sa fille. « On a été un peu longtemps jeunes, on a croqué le ver, le sec. On a vécu comme la vieille cigale de la fable, mais au fond, on n'a pas l'âme si noire que la réputation. Allez, on verra, et si l'on s'amende un matin, nous aurons à causer. Mais ce matin-là n'est pas encore venu. » Pendant ces jours d'espérance, Berthe parlait encore moins à Lucille. Elle se cachait dans des coins sombres et passait de longues heures dans ces muettes contemplations qui ne surprenaient plus personne. Une sorte de langueur s'était répandue sur ses traits et en adoucissait l'expression. M. d'Aubrive, retenu à Grandval par une force contre laquelle sa volonté ne pouvait rien, dînait une fois ou deux par semaine à la Marelle et tuait des perdreaux en prenant chaque jour la résolution de partir pour Paris. À ce moment de sa vie, et secrètement, il cherchait un moyen d'utiliser ce qu'il avait de faculté, et il avait écrit dans ce sens au directeur de cette entreprise de charbonnage où était engagé tout ce qu'il avait de fonds liquides. « Elle verra du moins que je tiens parole », se disait-il. Monsieur Détournelle, de son côté, n'avait pas reçu les confidences de sa fille sans un grand trouble et un véritable chagrin. Jamais dans ses projets d'établissement il n'avait songé à un mari du caractère de Francis. Il voulait au contraire un homme qui eût les habitudes d'une vie laborieuse, une profession, et quelque chose de rassis dans l'existence et les goûts. Ce qu'il savait de sa fille et de ses dispositions d'esprit ne lui permit pas de laisser voir tout entière la contrariété qu'il éprouvait. Il fut de bonne foi quand il lui promit d'étudier M. d'Aubrive et de le prince opposer à leur union si rien ne lui en démontrait l'impossibilité. Mais dans son fort intérieur, le maître de forge espérait bien qu'une découverte imprévue dessillerait les yeux de Berthe et l'autoriserait à intervenir avec toute l'autorité d'un père. Rompre nettement et brusquement de prime saut était impraticable avec une fille du caractère de l'eau qui dort. M. Détournelle s'accommoda donc de l'atermoiement que son expérience et sa tendresse pour Berthe lui suggérèrent. Toutefois, les premiers renseignements authentiques qu'il obtint modifièrent son opinion. Bien que son désir ne fût pas de ce côté-là, il se résigna petit à petit à considérer M. d'Aubrive comme un gendre qu'il acceptait de la main du hasard. Un soir, M. Détournelle toucha du doigt l'épaule de Berthe. « Je verrai bientôt si notre voisin est homme à changer de route, » dit-il. « J'aurai ce temps-ci l'occasion de lui offrir un emploi. S'il accepte, s'il travaille rudement, comme je faisais quand j'avais son âge, il montrera qu'il est mûr pour les choses sérieuses. Sois tranquille et dors en paix. Ah, s'il refuse, c'est que l'habitude est la plus forte. Bonsoir, alors. » Berthe eut un instant la pensée d'écrire à M. d'Aubrive, mais un sentiment de fierté la retint. Elle avait parlé, elle avait sa promesse. Elle rejeta la plume qu'elle avait déjà prise et se sauva dans le parc. La conviction où elle était que dans peu de jours sa destinée serait fixée lui causait des battements de cœur qui l'étouffaient. Elle n'avait rien dit à sa sœur et se sentait résolue à ne lui rien dire, non par méfiance, mais par un besoin de concentration farouche qui la dominait. Toute remplie d'un trouble qu'elle ne pouvait alléger par la confidence, elle tomba au pied d'un arbre où elle resta en prière jusqu'à la nuit. Sur cette entrefaite, il y eut dans un village voisin une fête où tous les propriétaires du canton avaient coutume de se rendre. La famille Détournelle y rencontra M. d'Aubrive. Un grand nombre de boutiques éphémères s'élevaient sur le champ de foire, au milieu duquel on avait établi des jeux d'adresse et de hasard. Les jeunes filles et les enfants du pays tournaient tout alentour. Un orchestre de musiciens ambulants faisait rage dans un coin de la place où l'on dansait. Francis se promenait de boutique en boutique avec Lucille et Berthe. Monsieur des Tournelles causait à l'écart avec Monsieur Le Cerf. Cet entretien que rien n'arrêtait, ni les saltimbanques ni la foule, donnait fort à penser à Monsieur d'Aubrive. La conversation d'un notaire, pensait-il, est toujours suivie d'un contrat. Cependant, Lucile, ayant témoigné le désir de jouer, on mit à la loterie d'un marchand dont la baraque était encombrée d'objets divers, devant lequel un peuple de villageois endimanchés se groupait dans l'attitude de l'admiration. On perdait et on gagnait au milieu des éclats de rire. Lucile et Berthe distribuaient autour d'elles les lots qui leur étaient échus après chaque tour de roue. Un des numéros amenés par Francis le rendit maître d'un beau ruban de soie bleue. Monsieur des Tournelles, cria-t-il tout à coup, me permettez-vous de faire un présent magnifique à Mademoiselle Berthe? Faites, répondit Monsieur des Tournelles, qui causait toujours avec l'implacable Monsieur Le Cerf. Berthe accepta le ruban, sur lequel trois grandes bourguignonnes jetaient des regards de convoitise. La visite du champ de foire achevée, on reprit lentement le chemin de la Marelle, où l'on devait dîner. Une boîte de pralines que Berthe avait eue en partage au dernier coup vint à s'ouvrir, et deux ou trois bonbons tombèrent sur l'herbe. Oh, le couvercle est rompu, il faut l'attacher, dit Francis. Mademoiselle des Tournelles prit le ruban de soie bleue et le noua autour de la boîte. Voyez, c'est un lien, dit-elle à Monsieur d'Aubrive en le regardant. Une expression de joie éclaira la figure de Francis, et Berthe détourna la tête. Mais n'était-ce pas une allusion directe à l'entretien qu'ils avaient eu dans la cabane du garde, sur la lisière du bois? Ne venait-elle pas par ces quatre mots d'en renouer la chaîne interrompue et de lui faire comprendre qu'elle n'avait rien oublié? Ce lien qui lui avait toujours manqué, ne venait-il pas enfin de le trouver? Cette soirée passée à la Marelle fut pour Monsieur d'Aubrive comme un enchantement. Jamais il n'avait senti son cœur si jeune ni si confiant. Un mot avait tout changé. Il se laissait aller à la joie de vivre et d'être heureux. Deux fois, il eut envie d'arrêter Monsieur des Tournelles au passage et de lui dire: j'aime Mademoiselle Berthe, que faut-il faire pour la mériter? Par malheur, monsieur, le maître Ferge n'était jamais seul. Monsieur Le Cerf ne le quittait pas plus que son ombre lui parlait avec un feu singulier, en le retenant par un bouton de son habit. Allons, pensa Francis, demain je lui ferai l'aveu de mon amour, et s'il me la refuse, je partirai pour l'Amérique où je me ferai pionnier. Berthe ne pouvait s'empêcher de regarder Monsieur d'Aubrive à la dérobée. Quelquefois, leurs yeux se rencontraient, un trouble délicieux se répandait alors en elle. On la voyait pâlir, puis rougir presque aussitôt. Elle se taisait ou parlait fort vite et ne pouvait tenir en place. Elle aurait voulu que cette soirée où elle se sentait aimée n'eût pas de fin, et désirait cependant être seule pour savourer son bonheur. Une grande fenêtre était ouverte. Elle passa sur le balcon, y trouva sa sœur et l'embrassa tout à coup. Oh, que la nuit est belle, dit-elle. Tiens, l'eau qui dort s'amuse, dit Lucile en lui rendant son baiser. Monsieur d'Aubrive prit par le plus long pour rentrer chez lui. Faites donc de beaux projets pour qu'un mot les renverse tous, disait-il. Et il aspirait à plein poumon l'odeur des bois baignés de rosée, et il se retournait pour regarder au loin les lumières qui lui montraient la place où était le château de la Marelle. À 30 ans, est-ce drôle? Reprenait-il. Le lendemain, il rencontra Monsieur Le Cerf qui trottait sur sa bête d'un air affairé. Eh, monsieur le notaire, on aura à vous consulter ces jours-ci, lui cria-t-il. Fantaisie m'a pris de voir clair dans mes affaires. Rude besogne, répondit monsieur le cerf. Ne m'apportez pas vos paperasses avant la fin du mois, je ne m'appartiens plus. J'aurai pas le loisir d'y fourrer le nez. Il y a du nouveau. Ah ben, oh, c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Tout le monde n'est pas comme vous, mon gentilhomme. On en sait qui pensent à leur établissement. Je vais en certains lieux prendre certaines notes qui pourraient bien faire accorder les violons du côté de la Marelle, si ces notes répondent à ce que je crois. Il s'agit donc de mariage? Demanda Francis d'une voix creuse. Me verriez-vous en campagne de si bonne heure si j'étais sur la piste d'un bon contrat? Que dis-je, de deux contrats, s'il vous plaît? Nous avons deux parties pour les deux sœurs, et si vous êtes encore au pays à Noël, vous danserez à la noce. Ménagez un beau chevreuil pour ce jour-là. Là-dessus, M. Le Cerf joua de la houssine et partit. M. d'Aubrive resta sur place, le regardant s'éloigner. Il avait la gorge serrée. « Ce devait être, murmura-t-il en reprenant d'un pied lourd le chemin de Grandval. Ses timides espérances étaient fauchées d'un coup. Il pensa à l'Amérique et sourit tristement. « Vous ne croyez pas hier être si près du voyage, reprit-il. » Ce que le notaire avait raconté à M. d'Aubrive n'était vrai qu'à moitié. Francis ne s'était pas trompé la veille quand il avait supposé que M. Le Cerf et M. des Tournelles débattaient entre eux une question de mariage. M. Le Cerf avait toujours cinq ou six parties dans la Manche. Les jeunes gens qu'il proposait au maître de forge pour ses filles n'étaient point de ceux qu'on refuse d'emblée. L'un d'eux même convenait suffisamment à M. des Tournelles pour Lucile. On sait qu'il avait de bonnes raisons pour être plus réservé à l'endroit de Berthe, au sujet de laquelle il refusait de prendre aucun engagement, mais la fougue du notaire ne lui faisait trouver d'obstacle à rien, et, devinant la moitié de son succès, il ne doutait pas que son argumentation, appuyée par l'éloquence des chiffres, ne vint à bout du reste. Monsieur de Borive prit son parti dans la nuit. Tous les raisonnements par lesquels il avait combattu son amour naissant lui revinrent à l'esprit avec une furie nouvelle. En admettant, ce qui n'était pas démontré, qu'il eût inspiré à Mademoiselle Détournelle un sentiment d'affection inespéré, n'était-ce pas un de ces mouvements de jeunesse qui trompent les jeunes filles et que le travail de quelques jours dissipe? Un éclair n'est pas un incendie. Et devait-il profiter de ce premier éveil d'un cœur inexpérimenté pour violenter moralement la volonté d'un père et le contraindre à donner son consentement? Les indiscrétions de M. Le Cerf n'indiquaient-elles pas clairement que M. Détournelle avait d'autres visées au milieu desquelles M. d'Aubrive arriverait comme un intrus? Les vraies lois de l'honneur lui indiquaient son devoir. En s'y soumettant, il évitait l'humiliation d'une démarche qui serait fatalement mal interprété. Assister à sa défaite ne lui convenait pas non plus. Il n'avait que trop attendu déjà. Il jeta un dernier coup d'œil sur les objets qui l'entouraient, comme pour dire adieu au confident muet de ses combats intérieurs. Au petit jour, sa malle était faite. Il adressa un billet à M. Détournelle pour lui annoncer qu'une affaire imprévue le rappelait subitement à Paris, monta dans une voiture de ferme, se vit conduire sur la grande route et sauta dans la première diligence qui vint à passer. Cette fois, le roman de son mariage lui semblait bien fini. « Il n'y a pas de bon dénouement à mauvaise pièce, » murmurait-il en cherchant le sommeil dans son coin.